Vous écoutez, on lit pour vous.
La Renaissance de Gabriel Bouliane Tremblay. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 25 août 2025 dans le magazine Fugue. En février 2021, Gabriel Bouliane Tremblay est venu au monde en publiant « La fille d'elle-même », un roman auréolé de prix qui a fait d'elle l'une des voix les plus puissantes de la littérature québécoise. 4 ans plus tard, elle dit avoir l'impression de renaître avec « La fille de la foudre », un récit où la transidentité sert de trame de fond à l'exploration des méandres du trouble de la personnalité limite, TPL, des agressions et des multiples enjeux vécus par les survivants-survivantes. Un livre écrit comme on façonne un vitrail, délicatement, patiemment, dans l'espoir de laisser passer la lumière. Quel est l'impact de l'immense reconnaissance obtenue sur ton écriture? Le succès me soulève ou me tétanise, selon les jours. Mais sentir que les gens veulent entendre ce que j'ai à dire, voir le monde à travers ma lentille, ça me réchauffe le cœur. Je ne tiens rien pour acquis. J'essaie toujours de me surprendre. Comme je publie une suite, je sais qu'on va la comparer au premier livre. C'est correct. Une fois publié, il ne m'appartient plus. J'espère simplement que chaque lecteur et lectrice y trouvera quelque chose qui résonne. As-tu consciemment choisi de moins parler de transidentité? La fille de la foudre parle d'identité, mais j'ai élargi mes thématiques parce que je ne suis pas seulement trans. J'ai choisi d'aborder la santé mentale, la personnalité limite, les impacts des traumas et le poids qu'on met sur les survivantes. Ce livre m'a fait peur à écrire, parce que je suis allé dans des zones d'ombre bien particulières. J'aime parler de la face cachée de la lune. Il a été écrit à la fois dans l'urgence et avec lenteur. J'aurais pu le sortir 18 mois après la fille d'elle-même, mais j'ai préféré attendre. Certaines choses avaient besoin de maturer. Pourquoi ouvres-tu le livre avec une agression? Mon premier roman commençait aussi de manière percutante, avec le « Manifeste de la femme trans », écrit en 2018, publié en 2021 et toujours d'actualité. Je ne ressentais pas le besoin de trouver autre chose pour frapper fort. L'important, c'était de puiser dans des expériences difficiles, en me disant que je ne les avais pas vécues pour rien. Je raconte cette agression avec une touche littéraire, pour montrer que les capacités de la narratrice sont atteintes et pour donner une sorte d'avertissement. Dans le monde du dating, on ne sait jamais vraiment à qui on a affaire. Je voulais que le lecteur soit happé par un sentiment d'urgence vitale. Elle s'en tire, mais cet événement déclenche une prise de conscience. Autant le premier roman était une naissance, autant le deuxième est pour moi une renaissance. Le feu est partout dans le livre. Tu écris avoir envie de te mettre le feu. Tu parles d'incendies intérieurs, de foudre. Pourquoi ces images expriment-elles si bien ce que tu voulais partager? Le TPL, c'est électrique quand ce n'est pas contrôlé. La foudre, c'est destructeur, mais aussi révélateur. Un éclair qui frappe, une prise de conscience brutale. La réalité de la narratrice lui explose au visage. Elle doit gérer ses enjeux internes et externes, redéfinir son rapport à l'amour, se demander si elle est polyamoureuse, faite pour la solitude ou pour le couple, tout en vivant avec une dépendance affective. Ça a été ardu pour moi d'en parler. J'ai été longtemps dépendante affective. Je suis en rémission, disons. Il a fallu de la thérapie, des rencontres avec les dépendants affectifs anonymes et beaucoup de lectures sur le sujet. En publiant « La fille de la foudre », as-tu l'impression de révéler d'autres pans de la transidentité? Oui, parce que j'apprends constamment sur moi et sur d'autres parcours trans, similaires mais pas toujours uniques. Les politiques de Trump m'ont atteinte personnellement. J'ai fait un burn-out. Je le dis sans détour. J'en suis sorti récemment, après une hospitalisation. Je n'avais plus confiance en moi. Cet homme légitime la violence envers les personnes trans. Il nous déshumanise. C'est terrible. Même si j'ai un tempérament de frondeuse, cette idée qu'on ne veut pas de nous et qu'on cherche à nous effacer de l'histoire reste présente. Et le TPL me rend poreuse. Je suis une femme éponge. Comment se traduit la personnalité limite dans ta vie? J'ai fait 90 séances de thérapie pour mieux me comprendre. J'aimerais aller au gym aussi souvent. Je compare ma thérapie à un entraînement mental. Ça ne te tente pas toujours, ça fait mal parfois, mais c'est nécessaire. Certains jours, je disais à ma psy que je n'avais pas envie de lui parler, et on analysait pourquoi je ressentais ça. Mes émotions sont intenses, difficiles à réguler. J'ai aussi une peur exacerbée de l'abandon. Par exemple, il y a 2 ans, je suis allé dans une librairie à 2 étages avec un ami. Quand je ne l'ai plus vu, j'ai tout de suite pensé qu'il s'ennuyait et qu'il était parti sans me prévenir. Je saute vite aux conclusions. Ma thérapie m'aide à prendre du recul et à envisager d'autres perspectives. Tu écris vouloir déterrer le sanglot de ton enfant intérieur. Ce roman semble être une quête pour te rebâtir. Où en es-tu dans ta reconstruction? L'écriture me ramène à mes sens. Ce n'est pas le livre que je voulais écrire, mais celui que j'avais besoin d'écrire. Il m'a permis de découvrir des facettes insoupçonnées de moi-même. J'ai réussi à aborder le TPL avec plus de tendresse, à l'accepter. Il sera toujours là. On va cohabiter. La thérapie a été salvatrice. Je n'aurais pas écrit ce livre sans ma thérapeute. J'ai aussi compris que l'alcool est incompatible avec moi. C'est comme jeter de l'huile sur le feu avec un TPL. En novembre, ça fera 4 ans que je suis sobre. Cette sobriété m'a donné une euphorie de vivre. Info. La fille de la foudre, de Gabriel Bouliane-Tremblay, édition Marchand de feuilles. C'était La Renaissance de Gabriel Bouliane-Tremblay, une entrevue réalisée par Samuel Rochelle, parue le 25 août 2025 dans le magazine Fugue.
Traiter l'obésité sans s'alarmer, un texte de Christiane Laberge, paru le 24 août 2023 dans le magazine Virage. Reconnue récemment comme une vraie maladie, l'obésité est ciblée par de nombreuses stratégies mises de l'avant afin de la prévenir et de la traiter. Mais attention, si les effets néfastes de l'obésité sont bien réels, les traitements chocs peuvent aussi être dommageables. Actuellement, l'obésité est une condition de surpoids définie par un indice de masse corporelle, IMC, supérieur à 30. On parle d'obésité morbide lorsque l'IMC dépasse 40. Cette mesure, contestée par certains, ne témoigne pas forcément de l'état de santé global de la personne. Quoi qu'il en soit, et par son effet inflammatoire, l'obésité est bel et bien associée à l'augmentation du risque de diverses maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de cancer, de problèmes orthopédiques, voire de démence. Un enjeu complexe. L'idée reçue que les gros consomment des calories à l'excès, mais en dépensent peu, a la couenne dure. Socialement, un obèse choque. C'est quelqu'un qui se laisse aller et qui ne se prend pas en main. Cette image est pourtant fausse. Le problème est infiniment plus complexe. Il est bon de se rappeler que tous les corps n'ont pas la même forme. La génétique, la chronobiologie et le microbiome ont tous un effet. L'énorme offre alimentaire, la sédentarité et les polluants semblent également jouer un rôle. Traiter l'obésité, mais à quel prix? Pour vaincre l'obésité, les stratégies de prévention et les traitements se multiplient. Mais le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle. Pensons d'abord à la diète cétogène, un régime faible en glucides et élevé en gras. Comme technique de perte de poids, les résultats sont mitigés. Seulement 30% des gens constatent une amélioration. Les études nous disent que 5 ans plus tard, la moyenne de perte de poids n'est que de 2 ou 3 kilos. C'est peu, compte tenu des effets secondaires considérables. Quant à elle, la chirurgie bariatrique s'adresse surtout à une clientèle de gens qui ont une obésité morbide combinée à certaines conditions et maladies. Toutefois, dans la foulée de cette chirurgie, la malabsorption, malnutrition, devient une maladie chronique. Il y a aussi un risque de reprise de poids si l'ingestion de calories remonte au niveau antérieur. Un suivi devrait donc être effectué avant, pendant et 5 ans après la manœuvre, ce qui n'est pas fréquent au Québec. La sémaglutide Ozempic a récemment fait couler beaucoup d'encre. Cette molécule, destinée à traiter le diabète de type 2, est prescrite hors indication pour l'amaigrissement. En raison d'une hausse vertigineuse des prescriptions, les assureurs refusent maintenant de rembourser ce médicament pour les non-diabétiques. Or, il n'y a pas d'études sur l'effet de cette façon de perdre du poids. C'est sans compter une multitude d'effets secondaires non négligeables. En un mot, on ne connaît pas les conséquences à moyen et à long terme. En revanche, l'effet anti-inflammatoire de la diète méditerranéenne et de l'exercice est bien documenté. Ensemble, ils diminuent la démence, les maladies cardiaques et le cancer. Dans les faits, les gens en surpoids devraient viser de perdre l'excès graduellement et raisonnablement, soit 5 à 10 % du poids initial. Gardons la saine hygiène de vie qui nous convient et le tour sera en grande partie joué. C'était « Traiter l'obésité sans s'alarmer », un texte de Christiane Laberge paru le 24 août 2023 dans le magazine Virage.
Gare aux intrusions sur les rails. Un texte d'Henri Ouellette-Vézina, paru le 28 mai 2024 dans la presse. Le gestionnaire du réseau express métropolitain, REM, lance une campagne de communication percutante pour implorer les usagers de ne pas s'aventurer sur les rails au moment où les essais dynamiques sont sur le point d'être lancés sur le tronçon Deux-Montagnes. Pour sauver 5 minutes, es-tu prêt à passer 5 mois dans le coma? Lit-on sur l'un des panneaux qui ont été installés dans des abribus et d'autres installations à proximité des rails du REM. D'autres slogans comme « Pour couper ton trajet, te ferais-tu couper les jambes? » ou « Pour relever un défi, serais-tu prêt à ne plus jamais te relever? » sont aussi utilisés. Chez CDPQ Infra, la filiale de la Caisse de dépôt qui gère le train léger, le directeur adjoint aux relations médias, Francis Labbé, affirme qu'entre janvier 2023 et mars 2024, son équipe a compté 57 intrusions au total. Ça comprend des entrées pour pouvoir faire des graffitis ou encore quelqu'un qui a ouvert une clôture pour aller plus rapidement de l'autre côté, dit-il. Le message central de la campagne, c'est que de transgresser nos installations, ça veut dire mettre sa vie en danger, ajoute M. Labbé en rappelant que les risques de collision ou d'électrocution sur les rails sont élevés. Des trains circuleront à haute vitesse sur le tronçon Deux-Montagnes, où les essais dynamiques précédant une mise en service seront lancés. Puis, en août 2024, les mêmes tests auront lieu de Sainte-Dorothée jusqu'à la station du Ruisseau, dans l'île de Montréal, ainsi que sur le tronçon Lance-Alorme, qui passe par les municipalités de Kirkland, Pointe-Claire et Sainte-Anne-de-Bellevue. Cette affaire n'est pas sans rappeler qu'en 2018, EXO, responsable des trains de banlieue, avait fermé 3 traverses piétonnières sur la ligne 2 Montagnes afin de diminuer l'incidence des comportements dangereux quelques semaines après la mort d'un adolescent happé par un train à la gare Bois-Franc. Une surveillance accrue. Depuis peu, les effectifs de surveillance et de patrouille de CDPQ Infra ont été renforcés en vue du déclenchement des tests, confirme M. Labbé. On est au fait que des gens sont tentés de gagner du temps en prenant un raccourci. On le voit sur nos caméras, mais on n'est pas encore parvenu à intervenir, note-t-il. Selon M. Labbé, le fait est qu'historiquement, la ligne 2 Montagnes n'était pas sécurisée comme elle l'est aujourd'hui. Les trains passaient aussi aux 20 minutes, soit beaucoup moins souvent qu'ils ne vont le faire maintenant, dans une fréquence d'entre 3 et 7 minutes. On veut donc sensibiliser ces gens qui ont pris une habitude de prendre un raccourci. C'est très risqué, insiste le porte-parole. Ce phénomène d'intrusion est d'ailleurs une préoccupation partout dans le milieu du transport collectif, voire même sur le réseau routier ou public. En avril 2024, la presse avait révélé que des drones patrouillent maintenant dans les tunnels en construction du REM depuis qu'un jeune homme en mal de sensations fortes s'est introduit dans l'un d'eux à l'été 2023. L'amateur d'exploration urbaine, Urbex, avait publié une vidéo de son intrusion sur les réseaux sociaux mettant en relief une importante faille de sécurité sur le chantier. À la mi-mai, le Journal de Montréal avait rapporté que la Société de transport de Montréal, STM, mène des vérifications sur certaines vidéos publiées sur les réseaux sociaux où on peut apercevoir des adeptes de l'Urbex accéder à une loge d'opérateurs de train en mouvement dans le métro. C'était « Gare aux intrusions sur les rails », un texte d'Henri Ouellette Vézina, paru le 28 mai 2024 dans La Presse.
La vie grouillante au rythme des plantes, un texte de Valérie Levé, paru dans le magazine Quatre Temps, automne 2022, volume 46, numéro 2. Les insectes et leurs cousins à plus de 6 pattes se régalent et grandissent sur, sous ou à l'intérieur de tous les végétaux. Certaines plantes, cependant, sont de véritables hôtels tout inclus, où l'achalandage est particulièrement intense. Plantes herbacées ou arbres, à chaque milieu ses avantages. Insectes, crustacés, arachnides, myriapodes et autres arthropodes tirent parti de ce que chacun de ces lieux de vie a à leur offrir. L'asclépiade a de la compagnie. Est-il encore nécessaire de présenter le monarque et l'asclépiade? Nous savons bien que ce papillon se nourrit du nectar des fleurs d'asclépiade et que la femelle pond ses œufs sur les feuilles que la chenille grignotera ensuite pour grandir. Pourtant, les feuilles de l'asclépiade contiennent un latex toxique pour la plupart des insectes. Qu'à cela ne tienne, il y a longtemps que le monarque flirte avec l'asclépiade et que la chenille sait déjouer les défenses de la plante et même en incorporer les toxines pour devenir elle-même indigeste aux prédateurs potentiels. Ce comportement pourrait assurer au monarque l'exclusivité de ce garde-manger, mais il n'en est rien. L'asclépiade constitue un micro-habitat pour une communauté d'insectes, affirme Marjolaine Giroux, entomologiste et préposée au renseignement entomologique à l'Insectarium de Montréal. Le monarque partage en effet l'asclépiade avec plusieurs autres insectes. L'actyide de l'asclépiade, Eucaetes aiglée, par exemple, est un papillon dont la chenille découpe les feuilles avant de s'en nourrir, tout comme l'adulte et la larve de la chrysomèle, Labidomera clivicolis. Chez les punaises de l'asclépiade, il y a la grande, Oncopeltus fasciatus, et la petite, Ligaeus calmii. Toutes deux arborent une livrée rouge contrastée de noir. La grande punaise est strictement inféodée à l'asclépiade. La femelle y pond ses œufs, puis les larves se développent en se nourrissant surtout des graines. La petite ne se limite ni aux graines ni à l'asclépiade. Elle est même capable de manger les insectes pris au piège dans le latex. Le longicorne de l'asclépiade, Tetraopes tetrophthalmus, a ses habitudes. L'adulte mange les feuilles de la plante, mais les larves préfèrent les racines. La femelle pond ses œufs sur la tige, près du sol, et les larves se développent dans le sol en se nourrissant des racines. Le charançon adulte, Rhizomatus lineaticolis, se repaît lui aussi des feuilles, et c'est dans la tige que la femelle dépose ses œufs. Les larves se nourrissent quant à elles de la moelle de la tige. Ces insectes ont tous besoin de l'asclépiade pour survivre, mais ils ne sont pas nécessairement sur un même plan. L'asclépiade n'est pas menacée, rassure Marjolaine Giroux. Ils profitent tous des ressources de l'asclépiade pour se nourrir, se développer, s'accoupler, et tout cela à l'échelle d'une plante herbacée. Imaginez maintenant à l'échelle d'un arbre. L'arbre et les insectes au fil des saisons. C'est le printemps et les tilleuls et bouleaux fleurissent, attirant les pollinisateurs en quête d'un premier nectar. Bourdons, abeilles, guêpes, syrphides, ces mouches tigrées noires et jaunes, et coléoptères sont au rendez-vous. Chez les coléoptères, les pollinisateurs sont principalement des scarabées, par exemple Oplia trifasciata ou Euphoria inda. Avec l'arrivée du printemps, certains insectes, qui ont passé l'hiver sous forme larvaire, muent pour devenir adultes. C'est le cas de la larve du longicorne noir, Monocamus scutellatus, logée dans un arbre mort ou affaibli. Le longicorne passe sa vie larvaire dans le tronc, mange le bois et fait un trou pour sortir, décrit Étienne Normandin, coordonnateur de la collection entomologique Ouellette-Robert de l'Université de Montréal. Un trou dans un tronc? C'est justement ce que l'abeille découpeuse de la luzerne, Megachile rotundata, cherche pour faire son nid. C'est une découpeuse de feuilles. On peut la voir couper des morceaux ronds ou ovales d'une précision géométrique et les amener dans son trou pour construire des petites cellules dans lesquelles elle déposera ses œufs. Elle dépose un œuf par cellule et aussi du pollen pour que la larve puisse s'en nourrir lorsqu'elle sortira de l'œuf, précise Marjolaine Giroux. L'été bat son plein. Sur les troncs, les fourmis se suivent en file indienne, non pas pour manger l'arbre, mais parce qu'elles sont attirées par des pucerons qui, au sommet, se nourrissent de la sève. Les pucerons ne sont pas menacés par les fourmis. Celles-ci les tapotent simplement avec leurs antennes. Ainsi stimulés, les pucerons répondent à la palpation en sécrétant le précieux liquide sucré sous forme de miellat dont les fourmis sont friandes. Dans l'air chaud de l'été, retentit la stridulation de la cigale caniculaire mâle, Neotibicen canicularis, pour attirer la femelle. Après l'accouplement, la femelle fécondée dépose ses œufs à l'abri dans les anfractuosités des jeunes branches. C'est aussi le temps de la ponte pour les charançons enrouleurs de feuilles. Chez ces insectes, la femelle pond un œuf sur une feuille et enroule celle-ci en un minuscule rouleau protecteur et nourricier, car la larve se nourrira de la feuille jusqu'à la faire mourir et la faire tomber au sol. La larve y poursuivra son cycle, tout comme les jeunes nymphes de cigales qui se sont laissées tomber de l'arbre à leur sortie de l'œuf. Bien enfouies dans le sol, ces nymphes se nourriront tout l'été de la sève des racines de l'arbre. L'automne arrive et les feuilles tombent, constituant la litière forestière. Toute cette matière végétale en décomposition, entremêlée d'ifs de champignons, grouille de vie pour les décomposeurs comme les colamboles, les acariens, les cloportes et les mille-pattes. C'est aussi dans le sol que les nymphes de la cigale et les larves des charançons enrouleurs de feuilles vont poursuivre leur cycle vital en cessant de se nourrir et en s'enfonçant davantage afin de se protéger des froids de l'hiver. La nymphe de la cigale caniculaire passe ainsi de 2 à 3 ans à se nourrir de la sève des racines pendant l'été. Elle s'enfouit dans le sol pendant l'hiver avant de sortir au printemps de la 3e année et d'entreprendre l'ascension d'un tronc d'arbre pour, à son tour, se transformer en adulte et partir en quête d'un partenaire pour s'accoupler. Que ce soit sur une herbe frêle ou sur un solide feuillu, saison après saison, les cycles de vie fusionnent et la vie foisonne. C'était « La vie grouillante au rythme des plantes », un texte de Valérie Levé, paru dans le magazine Quatre Temps, automne 2022, volume 46, numéro 2.